Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Vendredi 17 octobre 2014, il est 18h, le journal du Studio Tamani, c'est une présentation de Sira Bachili. Au sommaire de cette édition, affrontement entre le MNLA et le groupe d'autodéfense Gatia hier à Intilit. Chacune des parties se rejette la responsabilité du déclenchement des hostilités. On évoque plus d'une dizaine de morts. Le Mali doit lutter contre l'impunité et la culture de l'arrangement. C'est l'avis de Souleymane Baldo, expert de l'ONU en mission d'évaluation sur la situation des droits de l'homme au Mali. L'UNTM doit rencontrer lundi prochain le ministre du Travail. Cette réunion est la dernière chance pour la Confédération. En cas d'échec, ses responsables menacent de maintenir le préavis de grève générale le 29 octobre. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, annonce l'envoi d'experts en Côte d'Ivoire et au Mali pour évaluer l'état de préparation à l'éventuelle apparition de cas de fièvre Ebola. Bonsoir et bienvenue à tous. Des affrontements ont eu lieu hier entre le MNLA et le groupe d'autodéfense Gatia à Intilit. Aucune précision n'est possible pour l'instant quant au bilan de ces combats. Le MNLA parle de 14 morts du côté assaillant, dont le chef de Gatia et deux du côté de ses combattants. Gatia dément et annonce la mort de 3 de ses combattants au lieu de 14. Modibo Mariko nous en parle.
Les affrontements se sont déroulés hier à Intilit, à 125 km au sud de Gao, entre les Touaregs de la tribu des Imgad, membres du MNLA, et les Imgad du groupe d'autodéfense Touareg Imgad et allié Gatia. Les informations restent encore confuses, en particulier sur la présence ou non des soldats maliens ou d'autres mouvements armés, précisément les MAA. Selon des observateurs internationaux présents dans la région, les combats ont pour enjeu le contrôle du secteur. La même source indique que Gatia, dernier né des groupes armés du Nord au Mali, considéré comme proche de Bamako, veut contrôler une base territoriale pour peser sur les négociations d'Alger. Les MNLA tentent de l'en empêcher avec des alliés dans chaque cas. Ces événements interviennent à la veille du redémarrage des négociations d'Alger où toutes les délégations sont attendues dimanche.
Selon les responsables de Gatia, c'est le MNLA qui les a obligés à réagir. Ils mettent en cause la maltraitance et le harcèlement du MNLA envers les populations. Le dernier fait constaté, selon eux, a été l'agression du maire d'Intilit il y a 3 jours. Abala Amzata, un des responsables de Gatia, a été joint par Modibo Mariko.
Nos populations ont été harcelées à Intilit. Elles ont été chassées de leur terroir. Vous imaginez l'autre chose, c'est le maire de la commune et un membre fondateur de Gatia qui a été agressé à Intilit, sur lequel les gens du MNLA ont ouvert le feu. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu cette intervention. Et on a demandé aux gens du MNLA de quitter les villages d'Intilit. Ils n'ont rien à faire là-bas. Ils n'ont pas l'adhésion des populations. Ce ne sont pas les populations qui sont là-bas. Et de laisser les populations vaguer dans leurs propres affaires. Donc ils ont refusé. C'est ce qui a fait qu'il y a eu ces affrontements.
Les allégations de Gatia sont rejetées par le MNLA qui dément avoir maltraiter qui que ce soit. Les responsables du mouvement accusent plutôt l'État malien d'être responsable de cette attaque. Selon le MNLA, l'État malien compromet ainsi le processus de négociation en cours. Ataï Ag Mohamed, coordinateur de la commission droits de l'homme du MNLA, a été joint par Modibo Mariko.
Nous démentons avoir maltraité qui que ce soit dans cette localité-là. C'est un prétexte utilisé par les autorités maliennes avec leurs blindés. Ils ont appuyé des milices qui ont attaqué un petit poste. Et s'ils ont attaqué ces postes, parce que ça, c'est un poste isolé avec peu d'effectifs. Pour eux, c'est une victoire militaire. Mais ils viennent de déclencher une situation qu'ils ne pourront pas maîtriser. Parce que là, nous pensons que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut renoncer à l'usage de la force. Il faut aller vers la négociation. Mais si la partie malienne décide par des connivences sur lesquelles, pour mettre les processus en cours, tant mieux, nous allons y répondre.
L'armée malienne a réagi à travers son chef d'état-major adjoint Didier Dako. Ce dernier dément l'implication de l'armée et précise que le général Ag Gamou, cité par le MNLA, est à Bamako. Didier Dako ajoute aussi que l'armée ne contrôle pas les milices. La MINUSMA a également réagi immédiatement en déployant un drone et des hélicoptères Apache pour vérifier la situation sur le terrain. Elle a pris contact avec les parties pour assurer le retour au calme et le respect du cessez-le-feu du 23 mai. Vous pouvez donc réagir à ces informations sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani.
Tamani.
Le Mali doit sortir de la culture de l'arrangement et renforcer la lutte contre l'impunité. L'avertissement vient de Souleymane Baldo, expert indépendant de l'ONU en mission d'évaluation de la situation des droits de l'homme au Mali. Au terme de sa troisième visite qui s'est achevée aujourd'hui dans notre pays, il a rencontré la presse ce matin à Bamako. Souleymane Baldo demande au gouvernement malien de redoubler d'efforts dans la lutte contre l'impunité. Il est au micro de Mohamedou Touré.
Il y a eu des libérations des personnes contre lesquelles pèsent des fortes présomptions de culpabilité ou d'implication dans des crimes d'ordre grave au Nord. Et cela a créé un choc réel au niveau du Nord, mais aussi au niveau de l'opinion nationale comme internationale. Il faut vraiment se ressaisir et s'assurer qu'il n'y a pas de telles libérations qui peuvent mettre en cause l'engagement du gouvernement dans la lutte contre l'impunité. Il y a au niveau politique des engagements très positifs, mais en réalité, lorsqu'on regarde les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui ont eu lieu au moment de l'invasion, et l'occupation de certaines parties du nord du Mali, et puis la reconquête de ces parties par la suite en 2013, il n'y a rien qui a été fait concrètement. Et donc le gouvernement doit redoubler d'efforts pour s'assurer que la justice soit vraiment faite dans le cadre des crimes graves qui ont eu lieu dans le nord du Mali.
Souleymane Baldo présentera son rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en mars 2015 à Genève. L'UNTM envisage de rencontrer le gouvernement une dernière fois avant son préavis de grève du 29 octobre. Une réunion pour essayer de trouver des réponses au blocage actuel des discussions. En cas d'échec, la centrale confirmera son appel à la grève générale pendant 72 heures. Yacouba Katilé, secrétaire général de l'UNTM au micro de Barké Sissé.
Tout ce qui concerne les questions de gouvernance, des prises de textes autres là, généralement ça va. Mais tout ce qui concerne vraiment des questions financières, nous avons des difficultés à nous entendre avec les gouvernements. Nous avons fait des propositions concrètes. Nous voulons des contre-propositions concrètes et précises par rapport à ces aspects. Tout le monde sait aujourd'hui que les travailleurs maliens souffrent. Le salaire est dérisoire, minime.
Vous espérez rencontrer le gouvernement avant le 29?
Naturellement, parce que déjà nous avons reçu une lettre du ministre de la Fonction publique qui a demandé déjà la reprise des négociations avec les gouvernements les lundi 20. Bon, si ça ne passe pas, naturellement, nous allons vraiment nous assumer comme ça a été fait la dernière fois.
L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé hier l'envoi d'experts en Côte d'Ivoire et au Mali pour évaluer l'état de préparation à l'éventuelle apparition du cas de fièvre Ebola dans ces deux pays jugés les plus exposés à la propagation de l'épidémie. Mohamedou Touré.
L'OMS fait état de près de 4500 morts dans les trois pays les plus touchés, Libéria, Sierra Leone et Guinée. Selon l'organisation, 9000 cas ont été recensés au total, mais un nombre équivalent n'a pas été signalé. Compte tenu de leur taux de mortalité évalué à 70%, le bilan a probablement déjà dépassé les 12 000 morts. L'OMS s'attend par ailleurs à voir apparaître 5000 à 10 000 cas par semaine à partir de décembre. La Côte d'Ivoire et le Mali se trouvent en haut de la liste des 15 pays d'Afrique qui doivent se préparer à l'éventuelle apparition de cas de fièvre Ebola. L'OMS a annoncé qu'une dizaine d'experts seront donc dépêchés dimanche au Mali et une autre équipe partira d'ici quelques jours pour la Côte d'Ivoire.
Écho de nos régions, direction Kidal, réhabilitation des salles de classe à Kidal. Le MNLA et le HEIA poursuivent leur opération autour de la rentrée scolaire. Les maçons ont commencé les travaux dans les bâtiments et un appel a été lancé à la radio pour recruter les enseignants. Une directive a été donnée pour travailler au rythme du calendrier arabe. Les jours fériés de la semaine seront donc jeudi et vendredi. La société minière de Kalana SA a remis hier au district de Yanfolila du matériel de protection contre la fièvre Ebola. Cette dotation est composée de 36 combinaisons, 36 masques, 18 lunettes, 18 bottes, 125 paires de gants et 5 thermomètres blazer en infrarouge. La valeur de ces équipements s'élève à 11 millions de francs CFA. Plus de 8000 personnes ont été consultées et 800 véhicules contrôlés depuis l'annonce de l'épidémie à ce jour dans le cercle. Remise de matériel aux personnes handicapées à Koulikoro. Ce don est composé de 50 boîtes de crème anti-soleil pour les albinos et 2 vélos tricycles. L'association des femmes handicapées moteurs a bénéficié également d'un appui financier ainsi que le financement d'un emploi de réparateur. Cette donation s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Arriver à ce que 100% des ménages utilisent des moustiquaires imprégnés, c'est l'objectif d'une rencontre organisée hier à Koulikoro. Cette initiative visait à informer la société civile et les radios sur les dispositifs de communication. L'ONG Oumoudili veut améliorer le système éducatif dans le cercle de Koulikoro. Elle a procédé hier à la pose de la première pierre d'un ensemble scolaire. Ce bâtiment est composé de 6 salles de classe, d'une direction, d'un bloc de 4 latrines, d'une infirmerie et d'un forage. D'autres projets devraient être réalisés dans d'autres communes du cercle. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Le grand dialogue du Parlement.
Tous les débats de l'Assemblée nationale sur Studio Tamani.
Avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes vendredi, c'est le rendez-vous avec le Parlement. Famoussa Sidibé, bonsoir.
Bonsoir Sylvia.
Alors, c'est l'actualité de la semaine avec les députés aujourd'hui.
Oui, avec les députés, cette actualité avec les députés vous réclame notamment, Sylvia.
N'est-ce pas, hein?
Oui, donc à bientôt pour la reprise de ce débat du Parlement avec les députés. Mais d'ici là, nous avons trois thèmes aujourd'hui. Le troisième round des pourparlers intermaliens, la reprise de la pause de la deuxième phase sera débattue dans le premier volet, le rapport d'audit de la Cour suprême sur les opérations d'achat de l'avion présidentiel et les équipements militaires. Les contrats ont été annulés et nous allons tenter de comprendre un peu ce qui se passe chez les députés sur cette question. L'appel du Mali au Conseil de sécurité pour aider à faire face au djihadisme sera la troisième partie donc du débat. Et nous aurons pour en parler Mohamed Ould Sidi Mohamed du RPM, Ibrahim Amadou Diko du RPM et Adama Paul Damango de l'URD pour parler de ces trois thèmes.
La semaine qui vient, ça sera celle d'Alger.
Inch'Allah.
Ok. Bon voyage. Hein?
Merci.